Et voilà, nous voici de retour sur Radio Esperanza, en direct du Village des Possibles. Donc vous nous écoutez soit en direct sur le site internet de Esperanza, radioesperanza.be, ou alors via les ondes hertziennes sur le 106.2 dans la région de Floref, ou bien on n'est plus du tout au nom d'Esperanza et vous nous écoutez rediffusé très gentiment par nos radios partenaires. Alors, merci Ludo pour ce podcast et ce petit son du Village des Possibles, même du festival entier. Nous sommes toujours autour de cette table, mais les personnes au micro ont changé. Nous accueillons maintenant différents acteurs. Nous accueillons d'abord Donatienne et Juliette. Bonjour.
Bonjour.
Vous représentez le musée du capitalisme, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Ravi. Et par contre, nous avons aussi avec nous Hélène. Salut Hélène.
Salut.
Hélène qui, elle, est du
CNCD 1111.
Bienvenue à vous.
Merci.
Et avec moi, à mes côtés, toujours, Nathalie. Salut Nat.
Salut.
Et Claire.
Bonjour.
Du coup, est-ce que vous voulez d'abord présenter un peu vos collectifs? J'espère qui veut commencer.
Allez, on se lance pour le musée.
Un petit tour de présentation pour nos éditeurs.
Très bien. Du coup, le collectif du musée du capitalisme, c'est un collectif qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Qui a différents projets, dont le projet le plus visible, disons, c'est une exposition itinérante. Donc qui se balade à travers la Belgique et qui vise vraiment à offrir des espaces de réflexion et de mise en débat sur le système dans lequel on vit. Voilà, je ne sais pas si mon acolyte veut rajouter quelque chose sur le musée.
Non, je crois que c'est plus ou moins bref mais complet comme présentation. Peut-être que je rajouterais le mot pédagogique. Mmh. Je ne sais pas s'il a été cité, mais voilà, c'est vraiment l'idée d'offrir un espace aussi pédagogique. Et intergénérationnel, on se destine à un public quand même très large, à partir de 15 ans, mais jusqu'à...
Quand on veut.
Quand on veut, voilà.
Je pense que le SNCD, vous êtes dans la même lignée de pédagogie,
Pas nécessairement.
Bah, mais oui. Non, d'abord, on va commencer par le début, non? Est-ce que tu peux nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas? On a eu la chance de pouvoir parler avec vous, d'ailleurs, hors antenne. Maintenant, il y en a plein qui ne savent pas ce qu'est le SNCD.
Oui, effectivement, je vais commencer par là. Donc, le CNCD 1111, c'est une coupole d'organisations. Donc, ça rassemble en fait presque 90 organisations, que ce soit des ONG, des syndicats, des associations diverses et variées. Et on se rassemble autour d'enjeux qui touchent à la solidarité internationale. Dans tous les domaines que ça représente, c'est quand même très large. On parle de climat, on parle de respect des droits humains, on parle de migration, enfin, ça peut vraiment brasser très large. Et le CNZD a trois missions principales qui sont faire du plaidoyer, donc vraiment être au contact avec les politiques pour faire changer les règles du jeu, quoi. Donc ça, c'est une première mission. La deuxième, c'est de sensibiliser, de faire de l'éducation permanente. Et là, on se rejoint avec le musée du capitalisme, je pense, justement, de permettre aux gens de comprendre le monde dans lequel ils sont pour pouvoir agir. Donc ça, c'est la deuxième mission. Et la troisième, c'est soutenir, parce que peut-être que les auditeurs connaissent, peut-être que vous connaissez, mais en novembre, on fait ce qu'on appelle l'opération 1111, qui est la grande récolte de fonds pour justement permettre, donc récolter de l'argent pour pouvoir permettre à des projets d'émerger dans d'autres pays. Et donc voilà, c'est aussi une manière de contribuer à la solidarité internationale. Et voilà. Donc ça, c'est un peu nos trois missions. Et puis, voilà.
Et est-ce que tu veux nous parler un peu de votre campagne actuelle?
Ouais, à fond. Donc là, on œuvre beaucoup sur le devoir de vigilance, ce qu'on appelle le devoir de vigilance. C'est en fait le devoir pour les entreprises, les multinationales, justement d'être vigilants au respect des droits humains et environnementaux sur toute leur chaîne de valeur. Donc ça veut dire vraiment de la matière première à... la présence des produits dans les magasins, toutes les étapes qu'il y a dans la production, que les entreprises multinationales soient vraiment responsables du respect des droits humains dans toute cette chaîne de valeur. Parce que pour l'instant, les entreprises se cachent très fort derrière « Ah, on ne savait pas », parce que c'est des sous-traitants qui font la production. Et c'est des chaînes de sous-traitance très compliquées où c'est des sous-traitants qui sous-traitent. Et en fait, on ne sait plus... En tout cas, eux disent qu'on ne sait plus. En fait, on sait très bien ce qui se passe, mais en tout cas, ils ont l'excuse de dire on ne savait pas. Et donc là, c'est l'idée avec le devoir de vigilance, c'est de pouvoir justement empêcher, enfin interdire qu'ils puissent dire on ne savait pas, parce qu'ils sont redevables, ils devraient être redevables de tout ça, quoi. Donc ça, c'est, on essaie de faire passer une loi, quoi, au niveau européen pour ça. Et c'est en bonne voie, quoi. Donc c'est réjouissant parce que bah, ici, en début juin, il y a eu un vote au Parlement européen. Donc, c'est un peu compliqué tout la manière dont ça se passe, mais en gros, il y a la Commission et le Conseil européen qui avaient déjà un peu émis des avis et pris des positions qui étaient un petit peu nulles, grosso modo. Et là, le Parlement européen a voté en faveur d'un texte qui est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, c'est pas parce que ça leur est tombé dessus comme le Saint-Esprit, quoi, mais c'est parce qu'il y a des gens qui luttent pour ça et qui ont... c'est de faire campagne, etc. Donc c'est réjouissant parce que ça veut dire que notre action a de l'effet. C'est une première... ça veut pas dire qu'on a un devoir de vigilance, parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir et encore beaucoup de choses à gagner, mais en tous les cas, c'est une victoire d'étape vraiment, vraiment réjouissante, quoi. Donc, c'est cool.
Voilà. Pas par pas, hein, de toute façon.
Pardon ?
On fait ça pas par pas.
Ben oui, c'est ça, c'est exactement. Le c'est petit chemin de la victoire.
C'est exactement ça, oui. C'est comme ça qu'on avance.
Exactement.
Et donc, Hélène, tu soulignais que ça fonctionne grâce aux gens qui luttent et toutes les personnes qui sont derrière. Donc, je me demandais, pour les deux associations, vous êtes accompagnés par beaucoup de bénévoles. Par exemple, au Musée du Capitalisme, je ne sais pas, vous êtes combien environ ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent ?
C'est toujours une question très compliquée au Musée du Capitalisme, puisqu'on a un fonctionnement un peu fluide qui rend difficile la quantification merci, du nombre de bénévoles actifs. Disons que dans le noyau dur, donc les membres qui suivent au quotidien l'association, il y a en fonction des périodes entre 8 et 15 personnes, admettons. C'est autour de ça. Et puis... On travaille par couche, quoi, donc il y a le noyau dur, et puis il y a autour de ça plein de gens qui gravitent de manière plus ou moins intense, qui s'inscrivent dans un groupe de travail particulier, mais qui veulent pas suivre au quotidien l'association, qui participent à une édition spécifique dans un lieu spécifique, mais qui suivent pas à chaque fois toutes les éditions. Il y a les anciens qui ponctuellement viennent redonner des coups de main de manière, quand ils ont le temps ou en cas de besoin. C'est, je crois que la liste du réseau et de la constellation musée, ça brasse beaucoup, beaucoup de personnes.
Ouais, surtout qu'il y a tous les guides qui sont formés à l'occasion de chaque édition. Et donc, il y a entre une quinzaine, vingtaine de guides par édition, en général, qui est formé. Et du coup, ça, c'est cool parce que ça permet de décentraliser les moments où on a pu transmettre cette pédagogie du musée, justement.
À ce niveau-là, est-ce que vous êtes parfois amené à travailler ensemble ? Je veux dire, j'ai cru comprendre que vous connaissiez assez bien, ou en tout cas que vous connaissiez, entre le CNCD et le Musée du Capitalisme. Et est-ce que des fois vos luttes convergent ? Est-ce que vous êtes souvent amené à travailler ensemble ou à vous mobiliser ensemble ?
Souvent, ce qui se passe, du coup, enfin en tout cas... de ce que j'en sais, c'est que nous dans le musée, on a la dernière salle de l'exposition qui s'appelle la salle alternative, qui vise à promouvoir soit des alternatives locales ou moins locales, mais qui sont des alternatives au capitalisme en tant que système, ou dans le capitalisme, ou sur des aspects spécifiques du capitalisme. Et dans le cadre de cette salle-là, souvent le CNCD est quand même présent. À tout le moins à travers des flyers et le partage de leur campagne, et parfois de manière plus proactive en fonction des locales, d'organiser un événement spécifique dans le cadre de l'édition là où on est. Mm-hmm. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà faites.
Oui, c'est ça. Bon, effectivement, il y a des personnes du CNCD qui ont été formées comme guides aussi, qui mm-hmm. participent du coup aux visites. Puis c'est toujours, en fait, je trouve la venue du musée du capitalisme dans une ville, c'est vraiment l'occasion pour nous en tant qu'asso de faire vivre des sujets en fait qui touchent au système dans lequel on est, mais avec une vision, une porte d'entrée différente, et ça permet en fait de créer des bonnes collaborations, d'avoir aussi des publics différents, ça crée un événement dans la ville, quoi, dans le village en fait, même près, carrément, ça crée des événements qui permettent en fait de parler d'aborder des sujets qui nous concernent aussi en tant qu'asso, et ça crée des liens, quoi. C'est chouette.
écoute, mettre en réseau et tout ça. Puis après, nous aussi, ce qu'on a, on a récemment au musée développé une mallette pédagogique. Et du coup, là, c'était chouette parce qu'on a pu voir d'abord la super mallette pédagogique du CNCD sur les inégalités, qui avait plein d'outils différents. Et donc, voilà, c'est aussi le genre de lien de partage d'expertise de part et d'autre qui sont très riches et très intéressants.
Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs un peu plus en détail ce qu'est une mallette pédagogique?
Oui, du coup c'est un petit coffret d'outils pédagogiques, on va dire, il y a plein de d'associations et tout qui ont développé leur des mallettes différentes, donc il y a vraiment beaucoup de formats différents. Mais l'idée, en tout cas celle du musée, c'est qu'elle sera disponible dans différents centres de documentation et en ligne. Et c'est justement, vu que nous, notre expo est itinérante et qu'elle n'est pas en permanence visitable, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup une demande de profs ou d'associations ou quoi qui avaient envie de pouvoir avoir le contenu du musée, mais hors édition. Et donc on a développé tout plein d'outils qui suivent la même logique et le même fil conducteur que dans l'exposition itinérante, où on se pose donc la question d'abord des origines du système, puis des espoirs qu'il a pu porter ou qu'il porte encore, et puis des limites. On identifie une série de limites au système actuel pour arriver donc dans cette salle alternative dont Donatienne vous parlait. Et donc voilà, on retrouve ce même fil conducteur, mais avec d'autres outils pédagogiques dans la mallette. Et voilà. Ouais.
Bah c'est vrai que les mallettes pédagogiques, ça permet aussi de décentraliser les animations et décentraliser l'info aussi. Du coup, ça se répand un peu tout seul. Et oui, c'est pareil en fait, au CNCD, avec les mallettes qu'on a, on forme les gens aux outils qu'elles contiennent. Et puis, les profs ou les animateurs sont autonomes sur les animations. Et donc, c'est chouette parce que c'est tous des outils qui sont développés par plein d'assos. Et ils vivent en dehors de ces assos. Et c'est du partage de savoir et d'outils, quoi.
Et donc, c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde qui a envie d'avoir accès peut faire la demande et avoir accès à cette mallette pédagogique. Ok, super.
Vous avez un petit capitaliste sous cloche aussi, vous pouvez montrer aux gens, ou pas du tout?
Un petit quoi?
Capitaliste sous cloche, empaillé?
Non.
On peut y penser, hein. Franchement, prochain Esperanza, venez voir le stand, on prévoira ça.
Atelier créatif.
Atelier créatif. On va en parler à Laura.
Non mais après c'est vrai que dans l'expo autant on identifie des mécanismes problématiques ou quoi, mais on n'est pas trop dans une approche non plus de culpabilisation ni du visiteur déjà, mais ou de d'acteurs personnels. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt des acteurs des types de comportements ou de mécanismes qu'on identifie, qu'on analyse, et que, enfin, je sais pas si tu veux compléter.
Oui, j'allais dire le terme qui revient aussi quasi le plus au musée, c'est systémique. Mm-hmm. Le capitalisme est un système, et donc c'est vraiment appuyé sur ce truc de, en fait, analysons le système tel qu'il est et les systèmes qui le font vivre et les interconnexions qu'ils ont, plutôt que d'aller pointer l'action individuelle. Et donc c'est vraiment créer du débat justement sur ce système et comment il s'auto-entretient plutôt que... Ouais,
comme c'est vrai que quand on parlait justement des liens musique du capitalisme et CNCD, c'est vrai que dans la salle justement des alternatives dont parlait Donatienne, en fait c'est là qu'il y a aussi une complémentarité qui est chouette, c'est que en ayant vu en fait les espoirs, les limites, et puis cette salle alternative, elle permet à nous CNCD d'arriver avec des propositions d'action aussi. Parce que voilà, il y a différentes. Enfin, les collectifs et les associations choisissent leur stratégie d'action. Et nous, on en a choisi une qui est, que j'ai décrite précédemment, mais ça nous permet en fait d'arriver avec, en disant, nous, on a choisi cette stratégie-là, mais il y en a plein d'autres que d'autres collectifs ont. Et en fait, c'est complémentaire, ça se renforce, et c'est en étant solidaires les uns et les unes avec les autres qu'on parvient à obtenir des changements. Mais voilà, d'être plus dans la... Enfin, je trouve c'est chouette d'être dans la tolérance la solidarité avec d'autres moyens d'action que de dire, nous, on fait ça et c'est ça qu'il faut faire et que tout le monde vienne derrière nous. En fait, il y a différents moyens de lutter pour, en fait, des changements. Et pas un changement principal, mais des changements qui sont multiples et bigarrés. Et voilà, donc... Effectivement.
Donatienne, tu as soulevé quelque chose que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un problème, c'est systémique, et que je trouve que ça commence un peu à venir, mais que pendant longtemps, on a un peu répété, entre autres pour tout ce qui est environnement, toutes les petites actions individuelles et tout ça. Et je trouve ça très intéressant que maintenant, ça commence à ressortir de plus en plus. Et justement, vous qui êtes vraiment investi là-dedans, est-ce que vous trouvez que c'est une vision, est-ce que les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça, effectivement, que c'est tout un système dans lequel on est qui pose problème et pas juste le fait de... Enfin voilà, je sais pas, c'est une question très vaste, évidemment, mais...
Ouais, c'est un peu difficile. Ça dépend parce que comme on a des classes de secondaire et puis des groupes associatifs, donc en fait dans les groupes qui viennent visiter l'expo, on a vraiment des niveaux de prise de réflexion préalable déjà sur ces questions très variées. Voilà. Ouais, mais c'est ça qui est chouette avec l'outil, c'est que vraiment peu importe où se situe le visiteur ou la visiteuse, c'est qu'on part de là et donc voilà. Si on est encore à l'étape de d'abord comprendre ou s'autoriser déjà à comprendre ce que il y a beaucoup de gens aussi qui se disent « Ah, mais c'est l'économie, moi, j'y touche pas, je suis pas expert. » Et nous, on prend la posture vraiment de dire « Bah, en fait, si vous interagissez tous les jours dans ce système, et donc tout le monde est légitime de le comprendre, et puis d'y réfléchir et potentiellement de le critiquer si on estime qu'il y a des choses critiquables ou améliorables. » Mm-hmm. Je sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai l'impression que je suis partie ailleurs.
D'une certaine manière, je pense que si. C'était une question qui était assez vaste, donc il pouvait partir dans différents... Mais je trouve que oui, que c'est bien d'insister sur le système et aussi le collectif.
C'est ça.
Ah oui, nous, c'est quand même... Bon, de nouveau, comme on valorise tous les types d'actions, et si c'est des actions individuelles, en fait, c'est aussi important. Mais clairement, on insiste, ou en tous les cas, on apporte, nous, cette vision collective d'organisation et de changement plus systémique que justement de dire moi j'ai fait mon petit pas et puis voilà, enfin non, c'est clair que là et alors sur la question de savoir si il y a de plus en plus de monde qui voit cette vision systémique, en fait enfin moi je sais pas, mais en tous les cas il y en a plus que si on faisait pas le taf qu'on fait du coup mais franchement c'est hyper dur à dire parce que on sait jamais, enfin on évolue aussi dans des cercles sociaux qui aussi nous ressemblent et donc on est un peu biaisé par rapport à ça, donc c'est difficile à répondre, mais voilà.
Mais c'est aussi pour ça que je trouve que c'est complètement important aussi d'ouvrir et d'aller porter un peu l'information aussi. Parce que quand on regarde autour de nous, on est entouré de gens qui nous ressemblent principalement et on pense que c'est la norme, on pense que c'est évidemment c'est connu, évidemment tout le monde le sait, mais non, tout le monde ne le sait pas. Et voilà, c'est pour ça que c'est très très important d'avoir ça sous la main.
Je vous propose. Ah oui, à fond.
Pardon.
Non, j'acquiesce.
On abonde.
T'as raison.
Il a raison.
Je vous propose une petite pause musicale.
Très super. Bien.
Ouais, la chanson s'appelle Millionnaire.
Oh, super. Allez, super.
Le diable est venu me voir pour jurer ensemble et boire. Il est toujours le bienvenu, mais son ami avait un peu trop bu. La soirée se passe bien, rit trois coups, boit du vin. Mais au milieu de notre digestion, il me posa cette question. Voudrais-tu être millionnaire ou mourir centenaire? Toute question a son mérite et il n'y a que les cons qui hésitent. Alors j'ai bu une gorgée pour me rafraîchir les idées. Millionnaire, 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 je m'achèterai une suite immobilière près des quais, une image de mirage et une tonne de jouets. Des gadgets à perpète et pourquoi pas une corvette. Des bisous, des bijoux comme un fou. Des gadgets à perpète et pourquoi pas cette corvette. Des bisous, des bijoux comme un fou. Et un palace en Honduras. Et une villa près de Malaga. Des corps nus qui s'enlace dans un hôtel aux Émirats. Et un palace en Honduras. Et une villa près de Malaga. La roue qui tourne
À Las Vegas et un hôtel aux Émirats et un palace en Honduras et une villa près de Malaga. La roue qui tourne à Las Vegas. À... Non. Non, centenaire. Centenaire. Centenaire, j'aurais bu et goûté au parfum de cent étés, aux bêtes joies et au mal de vivre, aux faibles lois et aux soirées ivres, à l'amour croisé au coin d'un sentier, à la mort aussi tard que jamais, aux larmes de joie plus qu'aux lames de pleurs, aux cent fois une fois et des morceaux pour cœur. Ouais, mais y a le palace en Honduras, y'a la villa près de Malaga, y'a les cornus qui sont là dans un hôtel aux Émirats, et y'a le palace en Honduras, y'a la villa près de Malaga, là où qui tourne à Las Vegas, c'est un hôtel aux Émirats, y'a le palace en Honduras. Non, non, centenaire, j'aurais bu et dansé aux lunes de cent étés, aimé dans les jardins, défendu et traîné tard, là, dans les rues, j'aurais les tics et les tocs des mille compagnons perdus et retrouvés sur le pont d'Avignon, lancé dans la mer, une bouteille de soupçon. Une jeune nymphe ou un jeune nymphe aura pris à l'hameçon. Mes chers amis, la conclusion ne saurait répondre à la question, car la différence est verbale et complexe en traître et avoir. Moi je préfère circonflexe, car les palaces on s'en lasse, et les villas c'est pas pour moi. Moi je préfère quand tu m'enlaces et que tu me dis je t'aime tout bas. Car les palaces on s'en lasse, et les villas c'est pas pour moi. Et moi je préfère quand tu m'embrasses et que tu me dis je t'aime tout bas. Car les palaces on s'en lasse, et les villas c'est pas pour moi. Et moi je préfère quand tu m'enlaces et que tu me dis je t'aime tout bas. Zibli baba bombay, zibli baba bombay, zibli baba bombay baby. Non 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 non, zibli baba bombay baby baby. Car les palaces on s'enlace, et les villas c'est pas pour moi. Et moi je préfère quand tu m'enlaces et que tu me dis je t'aime tout bas.
Retrouvez tous les podcasts du festival sur le site radio.esperanza.be.
Et nous revoilà ici à l'antenne de Radio Esperanza. Nous venons d'écouter Zaïmoun, qui sera en concert normalement demain soir au Village des Possibles. D'ailleurs, vous voulez être millionnaire ? Ça vous dit ?
Non, mais on se disait que c'était une super question à rajouter dans nos débats mouvants. Donc le débat mouvant, c'est un format de pédagogie qui permet d'échanger des idées. Et la question, est-ce que vous aimeriez être millionnaire ou pas ? On l'a pas, on la pose pas encore, mais ça pourrait être intéressant.
Moi, je dis que ça dépend si tout le monde a le droit d'être millionnaire ou pas.
Mais si tout le monde est millionnaire, à quoi ça sert d'être millionnaire ?
À quoi ça te donne accès d'être millionnaire ? Au dépend de qui ? Enfin, tu vois, c'est ça le...
Si la bière coûte 1 million, bon.
Oui, c'est sûr.
Du coup, moi, j'avais envie de relancer une question sur le devoir de vigilance qui est la campagne actuelle du CNCD, et de demander à Donatienne et Juliette si dans l'expo du Musée du Capitalisme, vous abordez ce sujet.
Alors, il me semble que le devoir de vigilance, en tout cas, figure pour l'instant pas dans l'expo en tant que tel. Mais ça pourrait être très intéressant de l'y intégrer. Ce qui est mentionné, du coup, toujours dans cette dernière salle, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Bon, je ne suis pas du tout une experte de la question, mais en gros, qui qui est un mécanisme, enfin c'est même pas un truc institutionnalisé, mais c'est l'idée de se dire que les entreprises prennent de plus en plus leurs responsabilités sociales et environnementales. Je crois que c'est pour ça le E d'ailleurs, c'est pas pour entreprise, c'est pour environnemental. Et que du coup elles vont produire un peu bah, justement en bon père de famille, cette expression qu'on aime tellement. Enfin bref, qu'elles vont être responsables dans leur production, d'elles-mêmes, de plein gré, sans qu'on les contraigne, et, juste parce que bah, parce qu'elles sont responsables, parce qu'elles savent que aussi c'est quelque chose que les consommateurs attendent d'elles. Et voilà. Mais c'est brièvement abordé quoi.
Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que, enfin, tu l'as bien dit. Je pense que le devoir de vigilance. La différence avec la RSE, c'est que justement, l'idée c'est que ce soit contraignant, quoi. Que justement les entreprises, les multinationales soient obligées de rendre des comptes sur les droits humains et environnementaux de toute leur chaîne de production, et surtout que si une personne se sent lésée par un fait, enfin par une violation de droits humains ou etc., que cette personne puisse porter plainte et avoir gain de cause dans des tribunaux qui sont dans lesquels ils ont une chance en fait de gagner quelque chose, quoi, parce que c'est hyper compliqué. Bah, si, d'être une travailleuse du textile au Bangladesh, de trouver que tes droits sociaux ou que tes conditions de travail ne sont pas respectées, et d'aller porter plainte chez H&M, dont le siège social est... Enfin, c'est hyper compliqué. Et donc, là, l'idée, c'est... Enfin, nous, on lutte pour que, justement, ça soit facilité. Alors, dans le texte, je disais qu'on avait eu une victoire d'étape là, au Parlement. Dans le texte qui a été voté, justement, ça, c'est pas encore... ce texte est vraiment, vraiment bien, mais il y a encore des choses à améliorer, et notamment ça, dans le sens où là, il y a encore une responsabilité aux plaignants et plaignantes de prouver les exactions qui sont faites. Nous, on luttait pour que justement ce soit le plus facilité pour les personnes, que là il y a quand même un gros combat encore à mener. Si elles se sentent, si elles trouvent que, si elles ont été lésées en fait, il y a encore un gros combat juridique à mener qui n'est pas évident. Donc ça, c'est encore des choses qu'on doit, pour lesquelles on doit lutter, quoi. Mais voilà. Et donc, je suis partie dans une grande explication, mais c'est juste pour dire que voilà, l'idée c'est que ce soit contraignant et que contrairement à la RSE, que ce soit, ça repose pas juste sur le bon vouloir des entreprises, quoi, mais que ce soit un truc démocratiquement voté et que ce soit une loi, quoi. Donc, et il y a déjà des pays qui en ont, hein, donc c'est pas un rêve complètement idéaliste. Enfin, en France, il y a un devoir de vigilance. Alors, je prends pas des exemples. Je veux dire, dans les devoirs de vigilance, on peut avoir des trucs beaucoup très poussés, des trucs beaucoup plus light de quelles sont les entreprises qui sont concernées, jusqu'à quel point, enfin des choses comme ça. Mais voilà, nous on veut que ce soit toutes les entreprises de bout en bout de la chaîne. Enfin voilà. Mais voilà.
Est-ce qu'il y a un pays où ça se passe relativement bien, qui peut servir d'exemple,
Y en a plusieurs qui en ont, mais alors prendre exemple, je pense que pour l'instant nous on fait pas trop, je crois, enfin en tous les cas pas à ma connaissance, parce que il y a toujours des améliorations à
oui,
à
y a des pays où ça se passe mieux, mais personne n'est au top.
Ah oui, non, évidemment que c'est mieux d'avoir un devoir de vigilance que de ne pas en avoir, mais voilà, je pense que y a des systèmes qui sont encore pour eux, on va dire, et en fait typiquement ici dans le texte qui a été voté, donc le Parlement a identifié des entreprises qui seraient concernées par ce devoir de vigilance, et le secteur financier est pris dans la liste, mais il bénéficie d'une tolérance par rapport à ça. Donc si le secteur financier n'est pas concerné dans son ensemble, c'est quand même un peu du foutage de gueule, quoi, parce que du coup ça permet encore aux acteurs financiers d'investir dans via les banques, etc., d'investir dans des activités qui respecteraient pas les droits humains et environnementaux. C'est un peu faire des contours et des turlupinages pour quand même finalement arriver à des résultats quand même déplorables, quoi. Donc voilà, il y a encore comme je disais, quoi, le combat il est pas fini, mais on est en bonne voie. Et je me suis de nouveau
petit pas par petit pas, hein.
Voilà, de nouveau,
ouais, puis moyen d'action par moyen d'action, c'est une des pistes, et puis c'est pas,
oui c'est ça, c'est pas une fois qu'on aura fait le devoir de vigilance tout est gagné, non, forcément pas, mais c'est des étapes. Ouais.
Clairement. Du coup, tu parles de différentes pistes. J'avais envie de rebondir sur votre salle alternative ou sur les alternatives possibles au capitalisme, au problème qu'on connaît actuellement. Je n'ai pas de questions précises, donc je ne sais pas si vous avez des...
Mais moi, j'avais envie de rebondir sur du coup, la stratégie de lutte qui a été utilisée, qui est utilisée probablement par le CNCD. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment une stratégie qui s'inscrit dans le système existant, qui va prendre les outils du système existant, qui est ici l'outil démocratique qui existe aujourd'hui et judiciaire qui existe aujourd'hui. Et le prendre comme outil pour améliorer le système dans lequel on vit. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a beaucoup ce débat dans la salle alternative du Musée du Capitalisme. Est-ce qu'on veut... quelle stratégie est-ce qu'on a envie d'adopter en tant qu'individu, en tant que collectif, en tant que société et c'est ça qui est chouette, c'est de se dire en fait, ça c'est des choses qui fonctionnent. Il y a aussi d'autres stratégies qui vont dire non, nous... le système, on veut construire quelque chose de complètement dehors, de se passer de l'outil judiciaire, de se passer de tout reconstruire. Faisons des expériences dans ton truc. Il y a des très grandes échelles, comme ici l'échelle européenne, où on se dit ils ont quand même un pouvoir contraignant. Et puis il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître dans un truc où en fait ils vont aller très localement et dire moi je préfère ancrer mon action dans quelque chose de beaucoup plus petite échelle parce que c'est quelque chose qui fait sens pour moi. Et donc ça, en fait, moi, ça me donne de l'espoir de voir aussi à grande échelle des choses qui bougent. Ça donne espoir.
Ouais. Et puis souvent, tu as aussi un peu des allers-retours entre les niveaux très locaux, enfin les locaux. et le niveau global, quoi. En fait, si tu fais ton potager dans ton village, ben oui, c'est une action locale, mais en fait, le fait que tu te retrouves en collectif, que tu apprends à t'organiser, que tu discutes d'enjeux autour de la biodiversité, de machin, peut-être que ça te donne envie d'aller signer une pétition, qui te donne envie d'aller... Et puis après, en fait, quand tu as lutté pour une loi, ou je sais pas, l'affaire climat, et puis que tu redescends en ramenant ça, en fait, à ton échelle globale, enfin, à ton échelle locale, ça fait des... Enfin, de nouveau, ça se renforce, quoi. Ouais.
Plein de possibilités à tous les niveaux.
Ouais.
Moi, c'est ça qui m'avait vraiment beaucoup plu parce que moi, je suis rentrée dans le musée, du coup, d'abord en tant que visiteuse et puis comme guide. Et cette salle alternative, on arrive dedans généralement avec quand même le moral un peu dans les chaussettes parce qu'on sort de la salle limite où on a vu énormément de choses sur les inégalités, sur des conditions de travail, sur des enjeux de conflit d'intérêts. Et donc, on voit toute l'ampleur du travail qui a mené de la pluralité des luttes. Et dans cette salle alternative, il y a vraiment ce dialogue entre des trucs systémiques et des trucs plus locaux qui répondent ponctuellement à une limite. Et je trouve que ça met vraiment en lumière la diversité, comme tu dis, l'interaction, les allers-retours et la complémentarité de tous ces moyens d'action. Qui invite à sortir d'un truc binaire dans lequel on a tendance à tous tomber, parce que je pense que c'est plus pratique pour notre cerveau, mais de genre, est-ce qu'il faudrait plutôt faire ça ou ça ? Et que là, on voit que non, mais c'est ça et ça, et aussi c'est chacun là où il le sent, parce que clairement, le but, c'est pas que tout le monde aille se mettre dans des actions directes où potentiellement il y a du conflit ou de la violence ou quoi. Enfin, que vraiment, où que tu sois dans ton envie d'agir, que tu trouves un moyen d'action à ta portée. Et ça enlève une pression aussi, je trouve, parce que sinon, des fois, on peut avoir tendance à dire « Ah, c'est ça la porte de sortie, mais ça ne me convient pas. » Enfin,
ça répond bien à ce que tu disais tantôt, de ne pas culpabiliser les gens qui arrivent, non seulement sur leur pratique quotidienne, mais aussi sur leur lutte, quoi. Enfin, de ne pas culpabiliser dans les deux, sens, quoi.
Et au-delà de la culpabilité, ce que je trouve super fort au musée, c'est que on insiste aussi sur le fait que chaque visiteur, chaque visiteuse est légitime de se poser des questions sur le système dans lequel on vit, parce que parfois vraiment il y a ce sentiment de je suis si tout petit, si pas intelligent, si pas formé, j'ai pas les outils qu'il me faut. Et en fait, c'est vraiment de remettre la personne au cœur de ce truc et de dire oui, tu es légitime, oui, tu connais plein de choses. Et en fait, en te mettant en débat avec d'autres gens autour de toi, regarde le savoir que tu crées. Et c'est ça, toute la posture du guide musée aussi, c'est de dire je suis pas expert, on va créer un espace de discussion et vous allez vous rendre compte que vous avez plein de choses à raconter de votre vie de tous les jours. Et ça je trouve super fort, au-delà de vraiment au-delà de retirer une culpabilité, c'est de vraiment empouvoirer les gens, de leur donner cette envie, quoi.
Cette petite étincelle aussi.
Ouais, la petite graine peut-être qui poussera tout de suite ou dans 10 ans, j'en sais rien. Mais...
Mm-hmm. Ouais, et l'espace pour échanger, quoi, sur tous ces trucs-là.
Et du coup, est-ce que vous avez envie de nous partager où se situe le musée pour l'instant et où il va arriver bientôt ?
Ouais, pour le moment, l'exposition n'est pas montée. Mais par contre, elle sera montée à Leuzen-Hainaut à partir de mi-septembre. Et puis à Florennes à partir de mi-octobre, si je me trompe pas. Les dates précises sont disponibles sur le site du Musée du Capitalisme, au stand. Si vous nous écoutez en live depuis Esperanza, n'hésitez pas à passer faire un tour. On a également des super chouettes cartes postales que vous pouvez utiliser à envoyer à votre famille ou à les glisser dans des petites tentes de vos copains de camping. Mais donc voilà, ça c'est les deux prochaines dates. On a aussi une édition anniversaire qui arrive en février à Namur. Ce sera les 10 ans de l'exposition itinérante et elle était déjà à Namur pour sa toute première édition. Donc ce sera vraiment un beau moment de, ouais, bon, voilà, de rétrospective et puis de penser l'avenir, de célébration, bien entendu. et voilà, et peut-être aussi, non, ça se confirme en vrai, une édition néerlandophone, ça fait longtemps qu'on en a plus, à Gand pour l'été prochain, donc ça, to be announced.
Ouais, et avant ça, en septembre à Bruxelles, on a deux événements liés au lancement de la mallette pédagogique, donc une soirée de lancement le 7 septembre et une formation le 23, voilà, donc là, n'hésitez pas. Ça, ce sera dans les locaux de la Zineke à Skarbek, place Mazuy.
Que de chouettes projets.
Ouais.
Est-ce que le CD, tu as envie de présenter dates clés qui vont arriver ou...
Ah ouais, bah demain. On n'attend pas.
Prenez vos agendas. Non, mais effectivement, donc sur le festival dans la Grange, demain à 17h, on projette un film qui s'appelle L'illusion de l'abondance et qui est un film sur trois femmes latino-américaines de deux pays différents qui luttent contre des multinationales, qui luttent au niveau juridique, quoi, contre des multinationales qui estiment-elles ont violé des droits humains dans leur village, et donc elles défendent leurs droits face à ces multinationales. C'est assez c'est un film d'environ une heure et c'est assez prenant. Puis c'est, je trouve ça fort en fait de se rendre compte de réalité complètement folle en fait. Donc voilà, c'est un bon moyen de rentrer dans le sujet du devoir de vigilance. Et puis on discutera justement pour, on aura une demi-heure pour discuter un peu de tout ça et voir un peu ce que les gens en pensent, quoi. Donc bienvenue pour ça. Et puis sinon deux petites autres dates, si je peux me permettre. Du coup, vas-y, c'est vas-y. Le camp climat fin août, on organise un camp pour des jeunes sur le climat en province de Luxembourg. C'est un camp itinérant avec sac à dos et l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre d'alternatives, quoi. On parlait d'alternatives tantôt, et donc là l'idée c'est vraiment aller dans des fermes, rencontrer des gens qui créent des choses, avoir des discussions aussi justement un peu plus méta sur la situation climatique, etc. Et voilà, il y a plein d'activités super super chouettes prévues. Il y a aussi une rencontre. Enfin, il y a donc les jeunes seront en itinérance et auront des rencontres spécifiques. Et puis il y a trois moments publics, dont un avec Arnaud Reussen. Mais bon, en fait, je balance tout le bazar. Mais allez voir Camp Climat sur le site du CNCD.
On essaiera de résumer ça.
Ouais, voilà. et le dernier truc, c'est la fête de la solidarité le 16 septembre à Louvain-la-Neuve. On organise, c'est un peu la grand-messe du CNCD, et l'idée c'est de le faire avec tous nos partenaires, les bénévoles, puis tous les gens qui sont intéressés par la solidarité internationale. Et donc voilà, welcome à la ferme du Bire, pour la neuve.
Un été bien rempli.
Moi je rajouterais bien juste quelque chose si on a le temps.
Oui, tout à fait.
C'était juste parce qu'on a parlé, enfin tu reparlais des bénévoles et on parlait de la structure du musée, donc si jamais le projet vous parle, au-delà des dates fixes, mais nous on est toujours, il y a plein de moyens de s'investir dans le projet, on travaille avec des groupes de travail, donc il y a aussi vraiment une place pour, récemment on a un groupe numérique qui s'est vraiment lancé pour
traiter cette question spécifique dans le musée. Et donc, c'est un bel espace aussi pour amener des questions qui, pour l'instant, seraient encore manquantes. Voilà, là, on a avancé un peu sur les sujets numériques, les thématiques de genre. Je pense qu'il nous reste beaucoup de travail à faire, notamment sur les dimensions décoloniales. Mais voilà, ça et d'autres choses. Enfin, n'hésitez pas si le projet vous parle.
Mais en tout cas, oui, ça nous parle. Ça nous a fait plaisir. J'espère qu'à nos éditeurs aussi. J'espère qu'à vous aussi.
Ouais,
c'était cool.
En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous.